9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Christophe Granger.
Bonjour.
Romancier, on vous connaît pour vos romans à succès. Le mot est faible, Vol des cigognes, évidemment. L'Empire des loups, Le jour des cendres. Où il y a un an, Les promises. Vous êtes traduit dans une trentaine de langues, vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Vos romans ont quasiment tous été adaptés au cinéma ou à la télévision. Et vous êtes avec nous aujourd'hui parce que la quatrième saison des Rivières Pourpres est sur France 2 en cette rentrée. Ça a démarré lundi dernier. Vous êtes content des audiences?
Écoutez, moi je suis pas un expert, mais la chaîne était très contente parce que la concurrence était forte, très très forte.
2 999 500, on va dire 3 millions.
Oui, 3 millions, soyez sympa.
14,5 de part d'audience. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette saison des Rivières Pourpres par rapport aux précédentes? Il faut tout le temps qu'on retrouve ce que les gens connaissent et en même temps qu'on ne retrouve pas ce que les gens connaissent.
Moi ce qui m'a frappé, c'est plutôt une espèce de... justement d'expérience, de savoir-faire pour recréer à chaque fois cette ambiance particulière brumeuse, campagnarde, ésotérique. Et je trouve que maintenant on a vraiment bien le coup de main, et puis quand on voit arriver le commandant Niémans, bon bah voilà, ça y est, c'est reparti pour un tour.
Pour se mettre dans l'ambiance, on va entendre un extrait. Pierre Niémans, donc, incarné par Olivier Marchal, et le lieutenant Camille Delaunay et Éric Hassinthe sont de nouveau appelés aux quatre coins de la France. On va écouter une scène du premier épisode de cette quatrième saison. Niémans et Delaunay arrivent sur le lieu d'un crime, et c'est le temps des présentations.
Commissaire Niémans?
Oui.
Lieutenant Michael Laclos.
Enchanté.
C'est moi que vous avez eu au téléphone. Je suis l'officier chargé de l'enquête.
D'accord. Moi, l'adjointe, le lieutenant Delaunay.
Ravi de vous accueillir. Pardon pour le retard. Jacques vous attend au poste.
Jacques.
Monsieur Pelletier, c'est le chauffeur du car. Il est sorti de l'hôpital hier, je l'ai convoqué comme vous l'avez demandé.
Parfait, allons-y alors.
Commissaire?
Oui.
J'aurais préféré faire votre connaissance autrement. Mais je voulais vous dire, je suis très honoré de travailler avec vous. Vous êtes une légende. J'aurais adoré faire partie de votre unité.
Ben maintenant c'est fait, bienvenue au club.
Ça existe vraiment? Il existe des policiers célèbres dans la profession, comme il existe des avocats célèbres?
Je pense. Ce qui n'existe pas, pour être honnête, c'est la brigade à laquelle appartient Niémans, qui est ça, du Granger, qui est une espèce de brigade qui vient au secours des gendarmes quand il y a une affaire trop bizarre, trop violente, qui frappe dans les campagnes. Bon, ça, c'était le principe de mon roman, c'était le principe du premier film. Mmh. Et c'est intéressant d'entendre cet extrait parce que c'est quasiment les mêmes présentations que Jean Reno dans le film des Rivières Pourpres quand il arrive face aux gendarmes. Donc, c'est à chaque fois ce système du flic aguerri, du flic de Paris qui va venir aider les gens du coin, quoi.
Et donc, le fait que le flic soit célèbre, vous l'avez inventé?
Ah oui, parce que alors moi je connais les flics célèbres comme tout le monde, Broussard et tout ça.
Ah, aujourd'hui, depuis longtemps, et puis il n'était pas célèbre du temps de son activité.
Il est devenu célèbre. On devient des légendes, mais là ça a toujours été un peu l'idée. Niémans, c'est quand même un flic qui est en fin de carrière et donc qui a eu le temps de résoudre des affaires connues et qui est devenu, oui, comme dit le gendarme, là, une légende. Mais vous savez, faut toujours relativiser tout ça parce que comment dire, si vous mettez bout à bout toutes les enquêtes que mènent les héros de télévision, vous avez de quoi remplir 70 carrières de flic.
On est d'accord.
Parce que c'est complètement aberrant d'avoir un flic qui mène autant d'enquêtes de meurtres aussi compliquées, aussi incroyables.
Et qui les résout toutes.
Bien sûr.
Et qui se plante jamais.
En un épisode.
En 52 minutes. Jamais en 51, jamais en 53. Toujours en 52 minutes. On entend les corbeaux, à moins que ce soit des choucas, donc on comprend qu'on n'est pas à Paris. Vous l'avez dit, chaque histoire nouvelle débute de la même façon. Les enquêteurs de Paris vont aider les gendarmes dans des coins plutôt isolés. Qu'est-ce que ça raconte des relations Paris-province? On n'a plus le droit de dire province-région.
Alors vous savez, ça aussi c'est légendaire, la rivalité entre les policiers et les gendarmes. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment deux entités très distinctes. Donc c'est là où la fiction joue. Je pense pas que dans la réalité on puisse imaginer des flics, des policiers donc, qui aident les gendarmes. C'est soit les gendarmes, soit les policiers. Mais moi j'ai toujours aimé ça et je me souviens, alors il y a maintenant longtemps, il y a 24 ans, quand j'ai écrit Les Rivières Pourpres, j'étais très heureux justement de mettre en scène, et c'était une des premières fois, des gendarmes avec leur blouson bleu, là, avec la rayure blanche.
Avec l'estafette Renault.
Voilà, et je trouvais ça très exotique.
Elle n'est pas du tout télégénique, cette estafette Renault.
Non,
et
mais
donc, c'était une des premières fois où on la voyait.
C'est devenu, et après Mathieu Kassovitz, dans le film, on a fait vraiment une sorte de l'armée des des ombres là, qui montent la montagne. Et j'étais très heureux de voir un souffle épique chez les gendarmes.
Tout autre décor, on va se retrouver dans un milieu d'artistes, de génies maudits, au milieu de toiles et de peintures de sang. Écoutez.
Camille. Mon Camille. Camille, qu'est-ce que tu fais là?
C'est de l'anima obscura.
Ça là?
Oui, c'est exact, mademoiselle. L'anima obscura, l'âme noire. C'est un courant esthétique qui est né ici, il y a 20 ans, porté par des artistes qui sont revenus au figuratif pour raconter, alors non pas le corps humain, mais ce qui se cache à l'intérieur.
L'âme. Parce qu'elle peut avoir de plus obscur.
L'anima obscura, ça existait ou vous l'avez inventé, comme l'arte povera en Italie?
Il faut que je vous signale que depuis la deuxième saison, j'écris pas toutes les soirées.
D'accord.
Donc par exemple, celle-ci, je ne l'ai pas écrite.
Vous la supervisez?
Je la supervise à la fin, c'est-à-dire que je vois ce qui a été fait. Mais on a la chance et les producteurs, il faut que vous sachiez aussi que le producteur est mon fils. Donc c'est quand même une histoire de famille.
Ouais.
Et il a trouvé des scénaristes qui, comment dirais-je, ont su se mettre dans mes pantoufles et inventer des histoires façon Granger, avec toujours un fond d'ésotérisme et ce genre de choses un petit peu mystérieuses et qui frappent à la campagne. C'est ça qui est important.
Ça fait deux fois que vous parlez de vous à la troisième personne en citant votre nom Granger. Vous pensez être devenu une marque? Qu'est-ce qu'il y en est? Puisque si vous dites que votre fils est le producteur, ça commence à devenir une marque, comme Peugeot est une marque, en même temps qu'un nom de famille.
J'espère que je ne parais pas prétentieux, oui, mais...
Non, c'est pas le sens de ma question.
C'est parce que...
Non, mais vous dites, je fais du Granger.
Je fais du Granger et, entre guillemets, j'ai été le premier à faire ce genre de... On a appelé ça des thrillers à l'époque, et puis maintenant, il y a pas mal d'auteurs français qui se sont mis dans ce sillage. Hein.
Vous voulez dire qu'il y a pas mal d'auteurs français qui font du Granger?
Ils essayent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé d'écrire des thrillers, c'est-à-dire des polars avec une histoire très forte, si vous voulez, et en lâchant un peu le côté social, j'étais dans une atmosphère autour de moi de néo-polars, qui était très social.
Christophe, Jean-Christophe Granger avec nous. On continue de parler des rivières pourpres et du polar en France et dans le monde. Culture Média continue sur Europe. Retour avec Jean-Christophe Granger qui signe ou qui surplombe ou qui entoure ces rivières pourpres. La nouvelle saison, la quatrième, qui a démarré lundi dernier sur France 2. C'est quoi votre rôle exactement? Vous avez écrit certains épisodes, vous avez corrigé les autres. Comment ça se passe?
Et selon mon inspiration, j'écris une ou deux soirées. Et puis, d'autres scénaristes imaginent des histoires façon Granger. Et en réalité... pour dire vraiment la vérité, je fais confiance aux producteurs qui ensuite supervisent tout ça et qui sont un peu les gardiens du temple.
Vous avez écrit une Bible, j'explique ce qu'est une Bible, c'est quand on dit tel personnage, voici qui étaient ses parents, voici où il habitait, il peut faire ça, il peut pas faire ça, il boit tel type de boisson, il ne boit pas ça, il fume tant ou il fume pas.
Il y a la Bible, en fait, elle était naturelle puisqu'elle était dans mon roman et puis ensuite dans le film. Et donc, c'est dans ces pas-là que tous les scénaristes s'engagent.
Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que vous avez écrit une Bible? Est-ce que les scénaristes ont une Bible écrite de votre main? Voici ce que peut faire Nîmes.
Non.
Pas de Bible.
Non, sauf pour la lieutenant, interprétée par Eric Hassinthe, qui était un nouveau personnage. Mais si vous voulez, ma Bible, elle s'imposait d'elle-même parce que j'ai écrit toute la première saison. Bien. Où là, on connaissait le passé des personnages, on savait on connaissait leur personnalité. Et donc, à partir de là, encore une fois, les scénaristes ont suivi le destin de ces personnages.
Alors justement, comme dans toute bonne série policière réussie, il faut que les flics aient des traits de caractère forts, tranchés, comme Olivier Marchal, qui incarne l'immense flic qui n'a pas sa langue dans sa poche. On écoute un extrait.
La nuit dernière, votre camarade Mathias Vidal a disparu. Le gardien l'a vu pénétrer dans l'internat, et depuis, plus de nouvelles. Quelqu'un est au courant?
Vous avez checké les chiottes? Parce que souvent, c'est là-bas qu'on le trouve en train de flotter dans l'eau.
T'es un petit marrant, toi. Il y a un mec de ta classe qui est en danger de mort. Donc, sauf si c'est pour aider ta grande gueule, on va s'en passer, d'accord?
Lorsque vous écrivez les dialogues de la série, vous pensez à un comédien, à Marchal, à Olivier Marchal, à sa façon de parler. Comment ça se passe?
Eh bien, justement, alors Olivier, au fil des saisons, il a endossé ce rôle et maintenant il insuffle du Marchal. Nîmes, maintenant, c'est 50% Granger, 50% Marchal. Et donc, ce genre de réplique, souvent, ça vient de lui-même, si vous voulez. Il est assez inspiré. Quand il mène l'enquête, oui, c'est Olivier qui mène l'enquête.
C'est-à-dire qu'il y a un texte Et puis voilà. Après, il peut en faire un autre, un peu comme Corinne Maziero dans Capitaine Marlowe, sans vouloir comparer les deux, les deux manières de travailler.
Quand,
mais
quand la personnalité est très forte, et quand, comme Olivier, il a lui-même été policier, il connaît vraiment la musique, on peut lui laisser évidemment toute latitude pour improviser.
Olivier Marchal a été policier, mais vous, Jean-Christophe Granger, vous avez été journaliste. En quoi est-ce que ça vous nourrit, ça vous aide pour écrire des enquêtes policières ?
Ah, j'ai toujours, surtout dans mes romans, le soin du détail, le soin de l'information qui peut passer au fil de l'enquête. Et ce que je dis toujours, c'est que mes lecteurs prennent toutes ces informations que je glisse dans mes livres avec vraiment grande force, parce que la lecture d'un thriller est une lecture très attentive. Vous êtes sous tension, c'est haletant. Et donc, tout ce qu'ils peuvent apprendre dans mes livres sur... à l'occasion de digressions ou de détours, c'est quelque chose qui les marque en profondeur. Et souvent, on me remercie d'avoir justement décrit tel ou tel univers.
Puisque vous parlez du temps long de la lecture, c'est épais un thriller, ça se règle pas en 120 pages. Ils font combien les vôtres habituellement ?
Oh, c'est de pire en pire, là maintenant je suis dans le 700, le 800.
Parce que vous pensez qu'il faut développer autant de choses, ou est-ce que plus aucun, ça arrive beaucoup quand les auteurs vendent beaucoup et deviennent des stars, plus aucun éditeur n'ose lui dire coupe ça, coupe ça, coupe ça ?
Ah, peut-être qu'on n'ose plus me rien me dire, ça ouais. Je sais pas.
Non, est-ce que vous avez un éditeur qui vous coupe ? Qui coupe des passages du texte ?
Non, qui me corrige, qui me note des répétitions, des maladresses de style et des choses comme ça. Mais sur la structure, non, on ne touche plus tellement mes livres. Ce que je veux dire simplement, c'est que je m'oriente un peu vers le polar, entre guillemets, historique, en tout cas à des époques différentes de la nôtre. Et alors ça implique un souffle, un décor, une description un petit peu de l'époque. Qui prend des pages. C'est pour ça que mes livres sont plus gros maintenant.
On va raconter ce que vous faites en ce moment et le prochain roman qui va sortir sur lequel vous travaillez. Mais d'abord, je vais rester aux Rivières pourpres puisqu'on parlait de ce temps long. C'est une série de 8 fois 52 minutes, 4 histoires de 2 épisodes chaque lundi. Pourquoi ne pas avoir fait une longue enquête qui soit la même et justement qui court sur un long souffle ?
Alors,
parce que c'est un choix de production,
oui,
évidemment.
Oui, moi, par goût, je préfère les histoires comme ça, par soirée.
C'est conçu.
Je trouve que les séries, d'ailleurs, j'en regarde plus, sont assommantes de longueur. Et avant, je défendais ça. J'ai défendu à une époque Nip Tuck, qui était pour moi du Tolstoï, mais à Miami. Et maintenant, je m'aperçois que je regoute le plaisir d'avoir un film en une heure et demie compact qui raconte vraiment une histoire.
Parce que c'est trop chronophage. Vous y êtes trop
chronophage.
Ou est-ce que la qualité des séries a baissé ?
Et moi, je trouve que la qualité des séries a baissé, oui, grandement. Mais c'est normal parce que la multiplication des séries est complètement étourdissante. On a des séries partout. Et je trouve que quand elles racontent une histoire sur plein d'épisodes, c'est un peu long, c'est un peu répétitif, c'est un peu mou.
Comment faites-vous pour vous démarquer ? Puisque si vous regardez beaucoup de séries ou il y a beaucoup de films, vous vous dites, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je vais pas le faire. Qu'est-ce qui vous reste ? Comment on se démarque ?
Je vais vous répondre simplement, il reste mon imagination. Moi, je m'accroche plutôt à ce que j'ai envie d'exprimer, à l'univers que j'ai dans la tête. Et Les Rivières Pourpres, c'est un bon exemple. Il y a une espèce d'univers qui est à chaque fois, qui revient à chaque fois. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on a tendance à penser maintenant que les gens aiment que les feel-good movies, les feel-good séries. Eh bien, avec Les Rivières Pourpres, on ne peut pas dire que c'est du feel-good. Eh bien, les gens sont contents, ils y retournent.
On va recevoir dans quelques instants Bertrand Huskla, le fondateur de Brood, qui est dans un film Jumeaux mais pas trop, qui dit justement, je n'en peux plus de cette bienveillance à tout craint, et tout doit être feel-good. Vous partagez
absolument
le même avis.
Absolument.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Parce que justement, vous parliez d'histoire. Racontez sur quoi vous travaillez. Le prochain Granger, ce sera quoi ?
Là, je finis un livre qui se passe à la fin des années 60. Donc en mai 68, puis un peu plus tard, où l'enquête traverse l'univers des hippies, qui est un univers que j'adore, que je n'ai pas vraiment connu parce que je suis trop jeune. Mais
vous aviez quel âge en 68 ?
J'avais 7 ans.
Ah oui, donc vous n'étiez pas encore en pâte de neige.
Mais j'ai connu cette époque, si vous voulez, la fin de la comète, où on était encore un peu hippie, un peu baba, mais l'âge d'or était terminé. Et ça fait très longtemps que je voulais écrire un livre sur cette époque, et aussi sur l'Inde, qui est un pays que j'adore, que je connais bien.
Mais ça a été un polar ?
Bien sûr, c'est une enquête policière à travers cet univers et qui met en scène, si vous voulez, les religions indiennes qui sont très compliquées.
Merci beaucoup Jean-Christophe Granger. Je rappelle les deux prochains épisodes des Rivières Pourpres avec Olivier Marchal et Erika Sainte. C'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup.
Dans Culture Média sur Europe 1, l'émission qui continue évidemment. Il va y avoir les infos de 10h et j'en parlais, nos invités, les comédiens Ahmed Silla et Bertrand Huskla à l'affiche de cette comédie Jumeaux mais pas trop. Jumeaux mais pas trop, film dans lequel ils apprennent qu'ils sont jumeaux alors qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Oui, ça peut arriver. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous parler du chanteur belge Tamino qui mélange les influences rock, pop et orientale. Et puis Jean Z nous parle d'un doc qui retrace l'incroyable histoire de petits actionnaires qui ont fait trembler Wall Street. Jean-Luc Lemoine arrive aussi pour sa session de rattrapage. Quel programme ? À tout de suite sur Europe 1.
Culture Média sur Europe 1.